Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 46, Luang Prabang, tourisme et bouddhisme. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter la suite et fin de la longue discussion que j'ai eu la chance d'avoir avec Francis Engelmann à Luang Prabang sur cette ville et tout ce qu'elle représente. Francis est installé dans cette ville du Laos depuis 2002 et il a grandement contribué à la protection de son patrimoine. Si vous avez raté l'épisode précédent, il vous faut absolument le rattraper avant l'écoute de celui-ci. On y parlait de l'histoire, de l'architecture et des sites majeurs de la ville. Dans cette deuxième partie, on va prendre une approche, je dirais, plus philosophique, puisque Francis va nous livrer sa vision du développement du tourisme à Luang Prabang, et aussi tout un volet passionnant sur son bouddhisme et la vie de ses moines et novices qui font battre le cœur de la ville. Alors bienvenue à Luang Prabang une nouvelle fois, la perle du Laos. Enfin, je suis entièrement d'accord, le fait de se promener dans cette ville, c'est le principal attrait de Luang Prabang. La lumière aussi est très très belle le soir, en ce moment c'est la saison plutôt sèche, donc les lumières sont vraiment perçantes et elles éclairent les temples le soir d'une manière absolument fabuleuse. Et effectivement, de se promener sur ces rues, donc il y a les rues principales, la grande rue principale qui est vraiment au milieu, et puis la rue côté rivière Kan, la rue côté Mekong, mais entre ces rues, de manière perpendiculaire, il y a toutes ces petites ruelles qui sont aussi assez fabuleuses. Et tous ces petits bâtiments, tous ces petits restos, toutes ces petites boutiques, bon, bah, ça fait plaisir aux touristes, bien sûr, mais le développement, il faut quand même bien le dire, a été assez rapide ces dernières années. Moi, j'étais pas venu depuis 7 ans, comme je le disais, j'ai vu un certain changement. Je pensais que ce serait encore plus que ça, mais j'ai quand même vu effectivement une multiplication des restaurants, des boutiques. Certains sont excellents, hein. D'ailleurs, il y a des petites perles au niveau culinaire. Qui sont fabuleuses. Mais quel est votre avis global sur ce développement de Luang Prabang? Est-ce que votre avis est qu'il va dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a déjà des abus? Est-ce qu'il y a déjà des dérives? Quelle est votre philosophie globale sur ce développement du tourisme à Luang Prabang?
Difficile de se prononcer sur ce qui va se passer dans le futur. Mais ce que je constate, c'est que tous les gens qui viennent ici me disent que le charme est toujours là. Alors, même moi qui suis là depuis longtemps, je t'entends un peu inquiet sur ce qui pourrait arriver, sur comment les choses évoluent. Mais jusqu'à maintenant, le charme opère encore. Les gens trouvent qu'il y a une atmosphère particulière. Et donc, on n'a pas dépassé le seuil où ça perdrait son intérêt. Alors, je redis d'ailleurs que ce charme, il est encore plus visible dans les petites ruelles, et que si vous venez visiter Luang Prabang, il faut surtout pas rester dans cette grande rue, qui certes est une belle rue, mais il faut surtout profiter de la moindre petite ruelle qui s'offre à vous pour aller explorer l'intérieur de ces îlots qui ont beaucoup de charme, et qui sont souvent d'ailleurs... eux sont gardés un peu le style villageois. Les grandes rues, il y a une grande rue, puis quelques rues qui perpendiculaires, qui sont un peu plus grandes et un peu plus développées, mais on a plein de petites ruelles. Ces petites ruelles, d'ailleurs, c'était les ruelles qui vont à la pagode, qui vont au monastère, où les gens empruntaient pour aller faire leurs offrandes et leurs prières. Puis vous avez beaucoup d'autres petites ruelles qui sont les ruelles, les venelles, par lesquelles les gens allaient à leur bateau. En termes d'histoire, les Laotiens sont arrivés dans ce pays, on pense, disent les historiens, vers le 10e siècle, donc il y a longtemps, mais de la Chine du Sud. Ce sont des gens qui sont arrivés en bateau, par les rivières, par le Mekong, par ses affluents, et ce sont des gens de l'eau. Les Laotiens, ils peuvent pas vivre loin de l'eau. Ils sont malheureux s'ils n'ont pas un bateau, s'ils ne peuvent pas pêcher, s'ils ne peuvent pas cultiver les rives des rivières. Donc on est un pays de l'eau, et à Luang Prabang, je pense que la majorité des gens a un petit bateau. Un petit bateau pour aller pêcher, pour aller de l'autre côté de la rivière cultiver trois petits légumes, pour aller visiter sa famille du village, d'un village un peu plus lointain, pour aller récolter les algues de rivière avec lesquelles on fait de très bonnes choses. Voilà. Donc ce sont des gens de l'eau et tous ces petits chemins, ce sont des petits chemins perpendiculaires à la rue principale qui vont à l'eau, qui vont aux rivières et descendent par un escalier jusqu'au Mékong ou jusqu'à la Namkan. Et là, on retrouve son bateau et on va en bateau. Donc tout le monde ici sont des gens de l'eau, de l'eau des rivières, pas de l'eau de mer puisqu'il n'y en a pas ici. Hein. Alors maintenant, comment les choses évoluent? Il faut dire une chose d'abord très très importante, c'est que Luang Prabang est une ville qui se mourait. Moi, je suis venu ici pour la première fois dans les années 80, et d'abord en visiteur avant de venir travailler ici. Et c'était poignant parce que c'était une ville fantôme, une ville à moitié morte. Il y avait personne. On voyait que des vieux assis sur le pas de leur porte. Pas un jeune, ils étaient tous partis chercher du travail ailleurs. Les toits des maisons s'effondraient, il n'y avait pas d'argent, ça sentait la pauvreté, on n'avait pas de quoi entretenir les maisons, il n'y avait pas de ressources. Et donc c'était une ville qui était vraiment en déclin. Elle était en déclin parce que après la révolution de 75, le pays se ferme, il n'y a pas de tourisme, pas de revenus, pas de métiers, pas d'investisseurs. Dans ces années-là, il y avait deux hôtels en tout et pour tout. Et tout ça, c'était des hôtels d'État, des restaurants d'État, quelques petites gargotes. Donc, c'était une ville qui mourait, dans laquelle il n'y avait pas de, l'économie était en berne. Alors, aujourd'hui, Luang Prabang est une ville relativement riche par rapport au reste du pays. C'est une ville qui ne fait pas pauvre du tout. Même s'il ne faut pas oublier que le Laos reste un des 10 pays les plus pauvres du monde. Luang Prabang, c'est un peu une enclave de richesse au Laos. Et ça, c'est grâce au tourisme. Donc la première chose sur laquelle moi je pense qu'il faut insister, c'est que c'est grâce au tourisme que Luang Prabang revit. C'est grâce au tourisme que les jeunes de Luang Prabang ne partent plus chercher du travail ailleurs, y compris à l'étranger. Que j'ai vu certains, moi, revenir d'ailleurs pour retrouver du travail ici. C'est à cause du tourisme qu'on a des enfants de paysans pauvres qui viennent ici en ville et qui arrivent, s'ils font le minimum d'études nécessaires, à trouver un travail et à sortir de la misère. Donc voilà, le tourisme, d'abord, c'est une chance pour Luang Prabang parce que c'est le seul élément économique sur lequel repose toute la vie de Luang Prabang. Alors évidemment, il y a aussi des mauvais côtés du tourisme, hein, c'est sûr. Le mauvais côté du tourisme, c'est que tout le monde n'est pas toujours très respectueux, donc il y a des quand on parle avec les gens d'ici, ils sont très choqués par la manière dont les touristes étrangers s'habillent. Hein. Les Laotiens sont des gens qui sont très pudiques, qui sont aussi des gens qui font très attention à leur apparence extérieure. L'éducation des enfants consiste souvent à leur expliquer que en société, quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui présente le meilleur de soi-même aux autres. On sourit. On ne parle pas de ses problèmes, on est habillé correctement, parce que c'est ça qui fait le charme de la vie en société et qui fait qu'on peut vivre bien ensemble. Donc vos problèmes, vous les gardez pour vous, et votre peau, vous la gardez pour vous, donc vous ne la montrez pas. Donc les gens sont généralement très habillés décemment et assez couverts. Alors quand ils voient quelquefois beaucoup de cuisses, de ventre, de seins un peu découverts, ils sont un peu choqués. Et beaucoup, je pense, de visiteurs ne se rendent pas compte de ça, parce que c'est la mode et ils ne se soucient pas. Donc voilà, ça c'est un impact qui blesse la sensibilité des gens. Ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas, parce que ce sont des gens fondamentalement accueillants, mais ils sont surpris, pour pas dire plus. Après, on a aussi tout le problème du respect de la vie religieuse. Le bouddhisme, c'est une religion dans laquelle la plupart du temps des moines est occupé à l'étude et à la méditation. c'est bien difficile d'étudier et de méditer quand vous avez 500 personnes qui passent sous vos fenêtres. Alors, et là, c'est le problème encore plus grave, parce que même si vous êtes très respectueux, le simple fait que vous passez, vous faites du mouvement, vous faites involontairement du bruit, et donc la vie monastique est très perturbée par le tourisme. Alors, ce phénomène ne se voit pas, j'allais dire, au premier coup d'œil, parce que massivement, ce qui frappe à Luang Prabang les visiteurs qui ne connaissent pas, c'est le nombre et l'importance, on va dire, des moines et des novices. D'ailleurs, la plupart des visiteurs ne font pas la différence entre un moine et un novice, et qu'on voit dans les rues qui se rendent à pied, puisque les moines généralement n'empruntent pas ni vélo ni moto, parce qu'ils vont généralement, ils sont jeunes, ils vont de l'école à leur monastère, et l'inverse, ils vont quelquefois pour une cérémonie dans les familles, etc. Alors, apparemment, le bouddhisme est très prospère parce qu'on voit beaucoup de moines et de novices dans les rues, beaucoup de, on va dire, de religieux habillés de la fameuse robe orange. Mais qui sont-ils ? La plupart d'entre eux, ce sont des novices, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 18 ans, ils n'ont pas fait de vœux importants. Les moines, eux, ont à respecter plus de 200 règles de conduite dans leur vie, et les novices, eux, à peine une dizaine. Donc, ça veut dire que les novices, on va dire, c'est des pensionnaires d'un pensionnat religieux. Ils viennent là essentiellement pour faire leurs études. On pourrait comparer cette situation à celle des petits séminaires catholiques en Europe au XVIIIe et XIXe siècle, où les familles pauvres envoyaient leurs enfants parce que c'était une éducation gratuite et de bonne qualité. Ici, c'est la situation d'aujourd'hui ici. Donc, on a à peu près 1500 moines et novices à Luang Prabang aujourd'hui, et 90% ce sont des novices. Donc, ce sont des pensionnaires religieux. Et un tout petit nombre est là pour les encadrer. Un petit nombre tout à fait insuffisant. Ce sont des adolescents. Ce sont des gentils garçons pour la plupart, mais quand vous avez un groupe de 80 adolescents avec 3 adultes pour les encadrer, forcément c'est un peu compliqué. Aussi gentils que soient ces adolescents, ils sont débordants d'énergie et il faudrait plus d'encadrement. Ils se sont tous, presque tous, des enfants pauvres, des villages agricoles, des environs, et puis de très loin. On vient à Luang Prabang faire ses études depuis la frontière chinoise. Et c'est parce que les familles n'ont pas de quoi payer les études, ou même si elles ont de quoi payer les études, elles n'ont pas de quoi payer la nourriture, une chambre. Et si vous êtes novice, vous avez tout est payé, vous ne coûtez rien à votre famille, vous êtes logé, nourri, éduqué, vous avez l'uniforme et vous avez les livres et les cahiers qui vous sont donnés. Donc c'est la meilleure manière de faire des études très correct. Les écoles de moines, il y en a 3 à Luang Prabang, suivent le même programme que l'enseignement public, plus bien sûr des enseignements religieux. Donc c'est une bonne formation. Quand vous sortez de là, vous avez fini vos études secondaires, vous avez 18 ans, vous avez le choix entre continuer à être moine et à être complètement être ordonné de manière complète, mais il y en a un tout petit nombre qui suit cette voie-là. La plupart d'entre eux, ils quittent le monastère à 18 ans. Autrefois, là, presque tous rentraient dans leur village. Ils devenaient riziculteurs comme leurs grands frères et leurs pères. Ils se mariaient, ils avaient des enfants, puis ils allaient envisager un jour, s'ils étaient toujours pauvres, d'envoyer un de leurs fils. Et ça, depuis des siècles, ça se passe comme ça. Quand on sort du monastère, quand on a fait ses études au monastère bouddhiste, on est instruit, on est respecté, c'est un honneur pour la famille, on sait réciter les principales prières, on est donc capable de diriger les cérémonies familiales. Donc c'est quelque chose qui vous donne un statut particulier dans la société agricole. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Il y en a encore une petite partie qui retourne dans leur famille à la campagne, mais la plupart d'entre eux, ils pensent à autre chose. Ils se disent que être paysan aujourd'hui au Laos, c'est le plus bas de l'échelle sociale. C'est un travail extrêmement dur pour des revenus très bas. c'est le plus bas niveau de la société. Il n'y a pas de considération pour les paysans ici. C'est l'insulte, hein, espèce de paysan. Hein. Donc, qu'est-ce que les jeunes paysans veulent? C'est s'en sortir, c'est avoir une meilleure situation. Et ça, le monastère, ça peut être le tremplin pour ça. Donc, beaucoup d'entre eux, au lieu de rentrer dans leur famille, vont chercher du travail en ville. Et dans l'hôtel où nous nous trouvons aujourd'hui, une grande partie du personnel masculin, ce sont des anciens novices de monastère qui ont trouvé un emploi en sortant parce qu'ils avaient fait de bonnes études secondaires. Ils avaient, s'ils étaient malins, ils ont un peu travaillé leur anglais. Ils ont été même suivre des cours du soir d'anglais supplémentaires pour être plus fort en anglais à la sortie. Et il n'y a aucun problème pour trouver du travail en ville aujourd'hui. Nous sommes dans un marché du tourisme en plein développement. Il se crée tous les jours, presque tous les jours, de nouveaux hôtels, de nouveaux restaurants où on a besoin de personnel. Donc le marché du travail est favorable aux travailleurs, aux employés. Et donc ici, c'est pas difficile de trouver du travail. Donc on a là, dans les monastères, un phénomène, j'allais dire, d'ascenseur social extrêmement intéressant. Le bouddhisme aujourd'hui permet aux jeunes d'accéder à une meilleure vie, à des emplois plus qualifiés dans le secteur du tourisme. Ça donne au secteur du tourisme des ressources tout à fait correctes, même si c'est pas une formation professionnelle technique adaptée nécessairement au métier du tourisme, mais ça donne du personnel déjà tout à fait correct qui va apprendre sur le tas. Donc ça c'est important. Les supérieurs de monastère se font pas d'illusions. Ils savent très bien que beaucoup des jeunes qui demandent à être novices, ils viennent parce que c'est ça, c'est l'ascenseur social, c'est l'occasion d'avoir une vie nouvelle. Et je dois dire que moi j'ai parlé avec beaucoup de ces supérieurs de monastère. Mais on est heureux finalement de contribuer à l'ascension sociale de ces jeunes. Tant mieux si on peut jouer ce rôle. Évidemment, on regrette qu'ils soient pas très motivés. Évidemment, on regrette que la discipline soit pas très facile à faire observer. Mais si on peut servir à ces jeunes pour qu'ils aient un meilleur avenir, on est heureux comme ça. Et c'est tant mieux. Et on est prêt à continuer. On se fait pas d'illusions. Alors évidemment, on n'a pas assez d'encadrement. Ici, on a le supérieur général de tous les moines de Luang Prabang, qui est un homme tout à fait remarquable, s'est dit, il faut faire quelque chose parce que il faut qu'on ait plus d'encadrement, il faut qu'on ait plus de moines expérimentés, de moines adultes qui aient fait des études. Alors, il a dit, l'objectif numéro un pour nous, ça devrait être de créer un lieu de formation, une sorte d'académie ou d'université où ceux qui sont intéressés par les études religieuses, puisse aller plus loin et puis qu'on puisse étoffer les rangs, j'allais dire, des moines adultes, des moines qui ont une vraie vocation religieuse. Les quelques-uns, on va dire le petit nombre qui avait cette vocation, ne pouvaient pas faire des études à Luang Prabang. Il n'y a pas d'université bouddhiste à Luang Prabang, il fallait soit, jusqu'à maintenant, aller soit jusqu'à Vientiane, et plus souvent d'ailleurs en Thaïlande, pour faire des études supérieures de bouddhisme, et devenir moine, et continuer dans les études bouddhistes. Alors, ce moine qui a une vision pour l'avenir, est en train de créer ici, c'est un projet qui est très important, donc une université bouddhiste, en cherchant des soutiens, des aides un peu partout, mais ça avance, ça marche, et ça c'est très important pour l'avenir du bouddhisme à Luang Prabang. Un bouddhisme qui a l'air de se porter bien, et puis qui joue un rôle social important, puis en même temps un bouddhisme qui est fragilisé par le fait qu'il n'y a pas assez d'encadrement, et qu'il y a quand même beaucoup de jeunes et pas beaucoup de moines confirmés. Donc, comme beaucoup de choses ici, hein, il y a les deux revers de la médaille, mais ça peut faire illusion. Quand on voit tous ces jeunes en robe orange dans les rues, on se dit le bouddhisme est extrêmement florissant. Alors, c'est vrai d'un certain point de vue, puis il y a des nuances à apporter quand même.
D'accord, ça fait un beau chapitre sur le bouddhisme à Luang Prabang, ça nous en apprend beaucoup vraiment sur la vie de ces moines et de ces novices. Et on est obligé de conclure ce chapitre par cette procession qui a lieu tous les matins. et qui prête à pas mal de débats. Alors moi, pour la petite histoire, j'y suis allé ce matin pour la première fois. Il y a 7 ans, on l'avait pas fait. Je sais plus pourquoi. Peut-être qu'on n'était pas vraiment dans le truc, on va dire. On avait lu que c'était un petit peu devenu n'importe quoi avec les touristes. Cette procession où tous les moines et novices sortent des monastères vers à peu près 6 heures du matin pour aller récupérer l'aumône des habitants. Ça, c'est ce qui devrait être la tradition quand on lit les guides. Mais en fait, on se rend compte que à la sortie des monastères, en tout cas là, moi où j'étais ce matin, ce ne sont que des touristes. J'ai vu très très peu de locaux le faire. Et surtout, les gens ne respectent pas cette tradition puisqu'ils se mettent à 1,5 mètre des moines, leur mettent les flashs dans la figure pour prendre des photos. Moi, avec ma femme, on s'est mis à 10 mètres pour voir ça un peu de loin, mais on était vraiment très déçus et surtout, on s'est dit, mais est-ce que ces gens-là comprennent ce qu'ils font et est-ce qu'ils se sont renseignés sur qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'ils font de mal, peut-être, je ne sais pas si c'est un mal, mais vous allez peut-être me le dire un peu plus précisément, à ces moines et novices. Quel est votre avis sur cette procession qui est pourtant très traditionnelle, hein. On ne parle pas de quelque chose qui a été créé pour les touristes, mais quand on est là aujourd'hui dans la rue le matin à 6h du matin, on a l'impression que c'est des touristes finalement qui ont créé ce phénomène. Alors quel est votre avis là-dessus ?
C'est vraiment un sujet de préoccupation et c'est triste de voir effectivement ce que c'est devenu. Alors, vous avez raison, beaucoup de gens ne comprennent pas de quoi il s'agit et donc ils font du mal sans le vouloir, parce qu'ils ne comprennent pas, et ils ne respectent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tradition ? C'est quelque chose effectivement de très ancien. Ça se passe tous les matins, donc tous les moines, dans un ordre défini, c'est-à-dire le plus ancien, celui qui a fait le séjour le plus ancien dans le monastère en premier, puis suivi par les autres en durée de temps décroissant, sort et va avec un bol à aumône en bandoulière, donc recueillir les offrandes que font les fidèles. Alors, les fidèles, eux, vont offrir, généralement, traditionnellement, c'est du riz gluant, qui est la nourriture principale des Laotiens de Luang Prabang. Et les moines vont revenir au monastère et partager, préparer cette nourriture. Alors, tout ça se fait, en principe, traditionnellement, avant que le tourisme n'arrive, en silence. Et c'est une cérémonie religieuse, c'est-à-dire que c'est un acte religieux dans lequel les moines expriment leur vœu de pauvreté totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de cuisine chez eux, ils ne vont manger que ce qu'on va leur offrir. Et les fidèles, eux, marquent leur générosité en donnant et en nourrissant ceux qui les protègent, les instruisent et les guident. C'est quelque chose qui se passe traditionnellement, chacun médite, c'est quasiment une méditation sur le don, sur la générosité, sur l'impermanence, sur la pauvreté, tout ça était autrefois, et est toujours dans les villages, hein, quelque chose de très méditatif, très silencieux et très beau. Comme à Luang Prabang, on a beaucoup de monastères et on a ces environ 1500 moines et novices, ça forme en ville des files de moines qui se suivent et se succèdent, qui est quelque chose de très impressionnant parce que ces moines pieds nus qui reçoivent des personnes agenouillées, leur offrande en silence, c'est quelque chose qui est très beau et qui est très touchant et qui est très émouvant, même si on ne comprend pas la signification. Mais c'est tellement beau que c'est devenu une attraction touristique. Et c'est là où le mal commence, parce que les touristes n'ont pas compris que c'était vraiment un geste religieux, et donc ils se sont rapprochés, ils ont voulu copier ce que faisaient les gens, donc donner eux-mêmes, ils se sont mis à donner des choses qui n'étaient pas bonnes. Dans la tradition, les moines ne se nourrissent pas uniquement de cette manière-là. Ce qu'ils mangent, c'est toujours ce qui est donné. Mais ça, c'est une sorte de cérémonie. Je vais oser une comparaison un peu osée peut-être, mais c'est assez comparable finalement à l'Eucharistie dans la religion catholique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a rapport avec la nourriture. On n'a jamais pu se nourrir d'une hostie et de rien d'autre, mais ça a affaire avec la nourriture, c'est un symbole, c'est entouré de respect, mais voilà, c'est lié à ça. Mais là, c'est pareil, Généralement, les gens donnaient autrefois très peu de choses. Ils donnaient quelques grains de riz, une petite boulette de riz gluant, et c'est tout. Le vrai don en nourriture se passait après, généralement vers 10-11 heures du matin. Ça se passe toujours comme ça. Vers 10-11 heures du matin, si vous êtes attentif, dans les rues ou dans les monastères, vous verrez des gens qui arrivent avec un plateau, sans protocole, sans écharpe de cérémonie, sans rien, et qui vont porter au monastère un plateau avec de la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la famille, on est 5, on a fait de la cuisine pour 10, et on porte 5 bols supplémentaires au monastère pour les moines. Mais ça, on le fait sans cérémonie, sans protocole particulier. Alors que la cérémonie du matin, de 6 heures du matin, elle est faite, elle est sacralisée, elle a un caractère religieux, elle a un caractère religieux très marqué. Alors que l'offrande de la vraie nourriture, celle qui va tenir au corps des gens, des moines, elle va être portée sans cérémonie au monastère. Et c'est ça qui est le vrai repas des moines. Alors ça, beaucoup de gens l'ignorent. Et donc, ils pensent que la cérémonie du matin, c'est la totalité de ce que les gens donnent à manger aux moines, ce qui n'est pas tout à fait le cas. La deuxième chose, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils donnent. Il y a des gens peu scrupuleux qui se sont mis à vendre du riz pour les moines, du riz qui a été cuit 2-3 jours avant, donc qui avait fermenté. Le riz, ça ne se garde pas très bien. Hein. Et donc, ils donnent du riz empoisonné. Et on arrive à des scènes absurdes où moi j'ai vu une dame qui m'a dit « mais je ne comprends pas, c'est moine, c'est scandaleux, j'ai donné quelque chose » et j'ai vu qu'au tournant de la prochaine rue, il avait jeté dans la poubelle ce que je lui avais donné. Bah oui, madame, vous avez donné quelque chose qui était empoisonné. Vous avez donné du riz fermenté et je vous garantis que si vous mangez du riz fermenté, vous allez avoir mal au ventre. Hein. Donc voilà. Mais pourquoi? Parce que vous l'avez donné sans vérifier ce que vous achetiez. Vous ne l'avez pas mangé vous-même, donc vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous avez singé ce que font les bouddhistes locaux. Comme le bouddhisme est une religion extrêmement tolérante et extrêmement ouverte, personne ne vous dira, vous savez, vous n'êtes pas bouddhiste, vous feriez mieux de regarder si vous trouvez que c'est une belle cérémonie, mais personne ne vous pousse à faire la même chose. Imaginez un groupe de Laotiens à Notre-Dame, à Paris, ou je ne sais pas dans quelle ville de province, allant à la grand-messe et disant, on va aller communier, c'est fun, c'est drôle, c'est sympa d'aller communier. Bah non, ça marche pas ça. Hein. Bah, ici, voilà ce que font les gens. Alors à la fois, ils bousculent, ils mettent des flashs dans la figure des moines, ils donnent de la nourriture qui n'est pas appropriée, ils ne se tiennent pas à distance, ils ne sont pas respectueux. Donc ce qui était une cérémonie est devenu un carnaval. Et ça, c'est très triste. Alors, on a beaucoup de mal à réguler ça, parce que alors moi j'ai participé à des petits tracts expliquant respecter cette cérémonie, voilà ce que c'est, ce que ce n'est pas. Vous savez, c'est très compliqué parce que les touristes ils se renouvellent sans arrêt, donc vous en avez expliqué à un, et puis la semaine d'après c'est un autre qui va venir, donc c'est compliqué d'arriver. Alors tous les guides l'expliquent, etc. Écoutez, il y a 15 jours, un article dans un journal américain d'une journaliste qui venait de visiter l'Ombrabang, qui a écrit au nom de tous les touristes, je demande pardon aux habitants de l'Ombrabang pour les horreurs que nous, touristes, avons commis au moment de cette quête matinale des moines. Voilà, elle était honteuse. Voilà, c'est peut-être le sentiment que vous avez eu aussi, et moi que j'ai quelquefois aussi, c'est que on a honte d'être là-dedans. On se dit, c'est pas décent, c'est pas respectueux, c'est pas bien. Alors, personne ici n'ose prendre le taureau par les cornes. La population, vous savez, les gens ici sont extrêmement respectueux et ils veulent pas ennuyer les touristes. Et puis, il y a une philosophie bouddhiste aussi du renoncement, de l'acceptation. Ils souffrent en silence. Et ils espèrent que ça va changer, mais ils vont pas faire le premier pas. Moi, je me souviens, maintenant j'habite plus en ville, mais quand je faisais cette offrande le matin avec mes voisins, je voyais des choses qui me choquaient. Moi aussi, j'étais pris en photo. Alors ça devait être encore plus extraordinaire parce que voilà un blanc qui donne, etc. Il est habillé comme eux, etc. Donc on me mitraillait. Bon, c'est extrêmement humiliant. Hein, je peux vous dire, quand on est de l'autre côté du flash, c'est pas agréable du tout. Et mon voisin qui était un vieux monsieur, je lui dis oh, c'est pas possible, je vais faire quelque... non, je m'en vais, je peux pas, je supporte pas ça. Il me disait Francis, vous fermez les yeux et vous ne pensez à rien. Parce que là, vous vous mettez en colère, donc vous êtes absolument dans les dispositions opposées à l'attitude correcte pour une cérémonie. Donc votre cœur est noir de méchanceté, vous faites une offrande de travers, vous ruminez, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Vous fermez les yeux, ils n'existent pas, vous les oubliez, vous comptez jusqu'à 10, ils auront disparu. Parce que le propre des touristes, c'est de ne pas durer. Donc le mal qu'ils nous font, ça ne dure pas. C'était ça la philosophie de mon voisin. Et c'est la philosophie de beaucoup de gens de Luang-Prabang. Ils supportent. Alors, les autorités, ici, pourraient aussi faire quelque chose. Alors, les autorités ont essayé, la police, mais c'est bien compliqué, on ne peut pas attraper les gens, on ne peut pas complètement leur interdire. Les hôtels ont aussi essayé de faire quelque chose. Il y a une espèce de force d'intervention où le personnel des hôtels, qui sont le personnel bouddhiste et le personnel d'ici, essayaient de dire aux gens, poussez-vous un peu, prenez de la distance, faites pas ça, ne donnez pas n'importe quoi, etc. Mais c'est très très difficile, donc on est dans certains quartiers, hein. Les quartiers où il y a le plus de touristes, effectivement, c'est pas beau à voir et c'est triste. Dans d'autres quartiers où il n'y a pas de touristes, ça se passe encore de manière très traditionnelle et c'est là qu'il faudrait aller si on veut vraiment voir cette cérémonie dans son vrai esprit. Puis un deuxième phénomène que vous signalez, c'est que il n'y a que des touristes qui donnent, parce que la contrepartie du développement touristique, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de familles. Il y a de plus en plus d'hôtels, de restaurants et de boutiques, mais le personnel de ces établissements touristiques, il vient de travailler. Mais son appartenance, son sentiment, j'allais dire communautaire, c'est dans la périphérie, dans les banlieues où ils habitent. Donc eux, ils vont donner avant de venir au travail et ils sont pas là. Donc, ceux qui sont là au moment de la quête des moines, des bonzes, comme on dit, c'est ceux qui sont là, c'est les touristes. Ceux qui ne sont pas encore arrivés, c'est les travailleurs des restaurants, des hôtels. Donc, cette dépopulation de la ville, qui est une préoccupation, contribue à aggraver la situation de cette quête matinale des bonzes.
Ouais, et j'irais même jusqu'à recommander aux prochains visiteurs soit de ne pas y aller, parce que très franchement, voir ça en centre de la ville, c'est pas très intéressant à cause de ce qu'on y voit, ou alors d'aller, comme vous l'avez dit, dans les autres quartiers, pour voir ça de manière un peu plus traditionnelle, un peu plus vraie, puisque c'est vrai que on en ressort pas forcément grandi de cette expérience quand on va dans le centre de Luang Prabang. Mais bon, ça n'empêche pas que Luang Prabang est une ville fabuleuse. On dit le joyau du Laos, moi j'ai envie de dire le joyau, ou en tout cas un des joyaux de l'Asie du Sud-Est. Il y a assez peu de villes comme ça en Asie qui ont ce charme, qui ont cette atmosphère dont vous avez parlé. Alors il y a beaucoup de choses à faire aussi autour de Luang Prabang. On va pas pouvoir tout passer en revue parce qu'on aura peut-être pas le temps et ce sera peut-être l'objet d'une future émission, mais on peut aller voir ces fameuses cascades de Kwangsi qui sont à une vingtaine de kilomètres de Luang Prabang, qui sont magnifiques, et une cascade assez importante qui coule comme ça en bassin. C'est très très joli, l'eau est très très bleu turquoise, c'est très bon, on peut s'y baigner. On peut aussi aller bien sûr dans la campagne en vélo. Alors c'est une ville qui se prête beaucoup à la marche également, mais dès qu'on veut s'écarter de la ville, on peut facilement traverser des ponts et se retrouver dans des petits villages. Moi, je me rappelle, il y a 7 ans, m'être perdu dans un petit village aux alentours. C'était très sympa. Il y a beaucoup d'agences, évidemment, qui vous proposeront des treks à la journée ou sur 2 ou 3 jours. Bref, vous aurez l'embarras du choix. Pour terminer, est-ce que vous auriez 1 ou 2 petits secrets à livrer à nos auditeurs? Alors, je ne vais pas vous demander de livrer tous vos secrets. Vous devez en avoir pas mal, j'imagine. Mais est-ce que vous auriez 1 ou 2 petits coups de cœur à nous faire partager sur Luang Prabang pour terminer?
Difficile à dire. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est les petites ruelles de Luang Prabang. Et puis, bien sûr, maintenant, après tout ce temps, je parle laotien, donc moi j'aime beaucoup, c'est bavarder avec les gens. Les Laotiens en général, et les Luang Prabanais en particulier, sont des gens qui sont extrêmement accueillants. Et pour peu que vous pouvez parler quelques mots de leur langue, ou qu'eux-mêmes parlent un petit peu une langue étrangère, ils vont être ravis de parler avec vous. Alors moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est de flâner, je le redis, c'est ça. Et puis, quand vous regardez autour de vous, les gens vous feront facilement signe d'entrer, de venir parler, de vous asseoir et profiter de ça, c'est ça, et vous découvrirez toutes sortes de choses. Alors, C'est ça, c'est la surprise de la vie au quotidien, les petits métiers, la vie dans les maisons. On a par exemple des orfèvres, des bijoutiers, des gens qui font le travail de l'argent. Là aussi, souvent, c'est intéressant de les regarder travailler. Et puis, il faut absolument aller sur l'eau. Je vous ai dit, les Laotiens sont des gens de l'eau. Et les promenades en bateau ici sont extraordinaires, c'est magnifique. Alors mon conseil, mon petit secret sera peut-être de vous dire, plutôt que d'aller voir ces grottes aux mille Bouddhas, les grottes de Pakou qui sont très très fréquentées, allez tourner le dos et allez de l'autre côté, redescendez le Mekong en aval, vous allez vous rapprocher des cascades de Guangxi dont on vient de parler. Vous pouvez même y aller à moitié par le bateau, puis après, pas très loin, prendre un autre moyen de transport par la route pour rejoindre ces cascades. Mais la partie aval du Mekong est très belle parce qu'elle est souvent resserrée entre des gorges. Là aussi, vous pouvez vous arrêter en chemin dans des petits villages, notamment sur la rive droite. La rive droite est la rive qui n'est pas développée puisqu'il n'y a pas de pont encore. Hein, et donc, la ville était du côté bien protégé. Puis en face, c'était les campagnes avec quelques petits villages. Donc là, il y a des petits villages absolument charmants. Vous trouverez aussi quelquefois une ou deux vieilles maisons. On vous racontera l'histoire d'un prince qui venait chasser, qui a laissé un ou deux enfants naturels qui font la gloire du village. Voilà, il y a plein de choses charmantes à voir dans les environs. Vous avez ces monastères aussi qui sont sur l'autre rive, tout un chapelet de monastères qui étaient des monastères consacrés à la méditation. Ils ont été pendant très longtemps à l'abandon après la Révolution parce que plus personne ne les entretenait et puis il n'y avait pas grand monde pour aller leur donner à manger. Et puis aujourd'hui, avec le développement du tourisme et un peu d'agitation en ville, il y a certains moines qui sont retournés dans ces monastères, qui les ont restaurés et qui y sont aujourd'hui. Vous pouvez y passer, respecter le silence qui convient à la méditation. Mais ce sont quelques-uns de très beaux monuments et il y a un petit chemin, c'est très joli. Ça, c'est peut-être un petit secret, c'est aller voir ce qui se passe en face.
Très bien, et bien merci, ça conclut très bien cet épisode sur Luang Prabang. Alors, en faisant des recherches et en ayant trouvé votre contact, j'ai vu que vous aviez aussi écrit un livre. Donc, pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce livre et où c'est qu'on peut le trouver ?
Alors, je n'ai pas écrit un seul livre, j'en ai écrit plusieurs. Donc, j'ai écrit plusieurs livres sur Luang Prabang. Certains sont épuisés, mais celui qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est un livre que j'ai fait avec un architecte qui est un dessinateur, comme le sont beaucoup d'architectes, et qui est un passionné d'aquarelle. Donc c'est un livre qui mélange des aquarelles et des petits textes que j'ai écrits. Donc on a ensemble décidé qu'est-ce qui était intéressant de montrer. Donc il a fait ça avec lui, son pinceau. Et puis moi j'ai écrit quelques textes qui accompagnent ça. C'est un livre qui s'appelle « Luang Prabang, perles du Laos ». Et qui est bilingue, français et anglais. Donc c'est des petits textes, les aquarelles tiennent la place la plus importante. C'est publié aux éditions Magellan à Paris, donc on le trouve dans toutes les bonnes librairies. L'auteur, c'est Francis Engelmann, et l'auteur des aquarelles, c'est Vincent Besançon, aux éditions Magellan à Paris. Alors, aux mêmes éditions, les éditions Magellan, qui publient beaucoup de choses sur l'Asie, sur le voyage, est en préparation pour très bientôt un livre que j'ai écrit sur les plantes de Luang Prabang. Alors, je me suis intéressé aux plantes de Luang Prabang. Vous avez compris dans ce qu'on a dit que c'est une ville très verte, c'est une ville très fleurie, où il y a beaucoup de verdure en Luang Prabang. Et puis c'est entouré de montagnes couvertes d'arbres. Donc les plantes jouent un rôle très important à Luang Prabang. Alors quand j'ai travaillé à la préservation de Luang Prabang, les gens venaient demander des conseils pour restaurer leur maison, construire une maison neuve, comment faut-il faire, qu'est-ce qu'il faut, quel est le style à respecter. Et puis, quelquefois, il y en avait quelques-uns qui revenaient après, et à propos, il y a un jardin, qu'est-ce qu'on fait dans le jardin ? Et question auxquelles personne ne savait répondre. Donc, le, le directeur de l'autorité m'a demandé, pourriez-vous faire des recherches sur l'art des jardins ou ce qu'étaient les jardins autrefois et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens. Donc j'ai commencé un travail donc il y a maintenant longtemps, il y a 15 ans hein, sur ce sujet, 14 ans sur ce sujet, et puis c'était très long, donc j'ai donné quelques conseils, on a fait quelques recherches, mais j'ai été très intéressé par ce sujet et j'ai continué à travailler jusqu'à il y a peu de temps sur le sujet, et j'en ai sorti un livre qui va sortir en début d'année prochaine. Donc c'est un livre d'ethnobotanique, c'est-à-dire c'est les plantes et les hommes, hein, et plus précisément les plantes et les hommes et les femmes de Luang Prabang, et donc qui comporte deux parties. Une première partie qui explique un peu quels sont les différents espaces verts qu'on trouve à Luang Prabang, quel type de jardin on trouve, comment ils sont dessinés, quels sont les jardins de monastères, les jardins des maisons, etc. Et puis la deuxième partie, c'est une sorte de dictionnaire. C'est très simple, page de droite il y a du texte, page de gauche il y a des photos. Donc des principales plantes, il y en a une centaine dans ce livre, qu'on trouve, qu'on rencontre lorsqu'on se promène dans Luang Prabang. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle, le nom scientifique, le nom local, le nom anglais, le nom français, petite description, et puis surtout, d'où elles viennent. À quel moment elles sont arrivées à Luang Prabang? Il y a beaucoup de plantes ici qui sont originaires d'Amérique latine, qui ont été apportées depuis le XVIe siècle ici par les missionnaires, les administrateurs coloniaux, etc. C'est incroyable. On n'a pas idée de ce que les plantes ont pu voyager. Elles ont ni ailes ni pattes, mais elles ont beaucoup voyagé grâce aux missionnaires et aux administrateurs. Et donc, on a toute une collection, enfin, toute une série de plantes qui sont décrites, disant d'où elles viennent et surtout à quoi elles servent à Luang Prabang. Alors, bien entendu, on trouve des plantes alimentaires. Les Laotiens sont des gens qui font une cuisine très naturelle et qui utilisent beaucoup de simples, beaucoup de plantes qui ont été récoltées dans les environs, en forêt, dans les champs. Les Luang Prabang, ils passent leur temps à cueillir des choses comme ça. Ils savent ce que c'est. Ils ont une très bonne connaissance de la nature. D'autres, bien sûr, sont des plantes médicinales. La médecine traditionnelle étant pleine perte de vitesse, mais elle existe encore, et c'était pour moi aussi l'occasion de la célébrer. Et puis, il y a les plantes aussi, les plantes religieuses, les plantes qu'on utilise pour faire des offrandes dans le bouddhisme, puisque traditionnellement, un des gestes religieux bouddhistes, c'est d'aller porter dans le monastère une offrande composée de trois choses, qui sont les bâtonnets d'encens, les petites bougies, et les fleurs. Et on n'offre pas n'importe quelle fleur. Donc on trouvera dans ce livre les fleurs que les gens ont sélectionnées pour être offertes dans les offrandes religieuses. Voilà, puis les plantes purement décoratives, qu'est-ce que les hôtels mettent là, ce que je vois par la fenêtre, je vois beaucoup de choses qui sont des choses que les gens n'utilisaient pas autrefois, qui ont été apportées. Aujourd'hui, les plantes voyagent encore plus qu'avant. Donc voilà, donc c'est pour les gens qui aiment les plantes, la nature, ce guide leur permettra de se repérer et de comprendre une partie du monde végétal qui imbibe cette ville.
D'accord, bah c'est très intéressant, ça clôture de très belle manière cet épisode. Donc un livre qu'on peut déjà se procurer aux éditions Magellan à Paris, et puis le deuxième apparaît très bientôt. En tout cas, je vous remercie énormément pour avoir pris le temps aujourd'hui, voilà, de faire cette interview et puis de parler de Luang Prabang. On voit à quel point vous êtes expert et comme la connaissance que vous avez sur ce lieu du Laos, ce lieu de l'Asie. Je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse le mot de la fin pour conclure.
Méfiez-vous de Luang Prabang, on y tombe facilement amoureux.
Merci beaucoup Francis, à bientôt.
Au revoir.
Nous voilà au bout de ce double épisode sur la jolie petite ville de Luang Prabang au Laos. J'espère que cette longue discussion vous aura plu et intéressé. C'est véritablement un lieu plein de beauté que je conseille à tout le monde de découvrir lors d'un voyage en Asie du Sud-Est. Un endroit qui a une vraie âme qu'il faut protéger à tout prix. Cet épisode a été un peu différent car très axé sur les problématiques liées au développement du tourisme et au respect des cultures. Donc puissent les mots de Francis Angelman communiquer cela encore un peu plus. Et pour y faire écho, vous pouvez entendre en fond sonore la prière du soir des moines de Luang Prabang que j'ai enregistrée dans un temple sur place pour nous rappeler à tous que le respect des traditions c'est important, même à l'autre bout du monde, et il n'y a pas d'exception à la règle. Et merci beaucoup à Francis d'avoir accepté bien sûr mon invitation pour cette interview à Luang Prabang même. Pour retrouver ces livres dont on vient de parler, une seule adresse, le site web surlesroutesdelasie.com/46. Et pour me laisser un commentaire, plusieurs choix s'offrent à vous, le site web, Facebook, Twitter ou encore iTunes. Et aujourd'hui, je voudrais citer Nicolas Traveler qui a laissé 5 étoiles sur iTunes en disant « Super, enfin un format où les gens prennent le temps de discuter et d'approfondir les sujets. Je ne suis jamais allé en Asie, mais j'ai hâte maintenant. N'ayant jamais pris le temps de me poser pour lire les guides ou autres livres, le podcast est un excellent moyen de passer le temps dans les transports ou autres activités sportives. Merci beaucoup. » Eh bien non, c'est moi qui te remercie Nicolas. Ce commentaire, je vois, a été posté il y a quelques mois déjà. Alors j'espère que depuis, tu as eu la chance d'aller en Asie. Et si c'est pas encore le cas, eh bien voilà, peut-être que tu peux envisager le Laos. Dans le prochain épisode, on va découvrir une autre ville asiatique, mais alors là, on va changer totalement d'échelle, vous allez le voir. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'on va revenir au pays du soleil levant. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.